Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر Allah qarib ala inna nasrallah qarib sadaqallahu al-aliyyul azim.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mercredi 20 novembre 2024. Dans quelques instants, je vous présenterai le journal d'information et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde la Troïka européenne contre la présentation d'une résolution à l'AIOA. Une frappe aérienne israélienne contre une maison dans le nord de Gaza fait au moins 20 morts et blessés. Et plusieurs armes légères et lourdes et plus de 1000 munitions de guerre ont été enterrées à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Jean-Noël Barrot, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné les nouvelles sanctions européennes contre les compagnies aériennes et maritimes du pays, avertissant que toute mesure que prendraient la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à l'encontre de l'Iran à la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne ferait que compliquer davantage la situation. Au cours de cette conversation où les deux hommes ont discuté des négociations nucléaires et des derniers développements régionaux, Araghchi a vivement critiqué la décision de présenter une résolution contre l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'AIOA. Paris, Berlin et Londres, associés à Washington, ont formellement soumis ce mercredi le texte d'une résolution à l'AIOA en vue d'un vote probablement jeudi, selon des sources diplomatiques interrogées par l'AFP. Cette mesure prise par les trois pays européens est en contradiction flagrante avec le climat positif créé par les négociations menées entre l'Iran et l'agence, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne n'a pas manqué de qualifier d'injustifiée et de provocatrice la décision des pays européens d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran pour ce qu'il prétend être la fourniture par Téhéran d'équipements militaires à Moscou pour être utilisés dans la guerre en Ukraine. Araghchi a par ailleurs évoqué la poursuite de l'offensive israélienne contre le Liban et le génocide à Gaza avant de condamner le soutien occidental aux atrocités du régime de Tel Aviv. Il a appelé à une action urgente des parties influentes pour contraindre Israël à arrêter ses crimes. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires britannique pour protester contre les sanctions de Londres contre la compagnie maritime de la République islamique. L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont imposé lundi des sanctions à la compagnie maritime de la République islamique d'Iran, Ericsson, et à plusieurs autres institutions et individus pour des accusations de fourniture de missiles balistiques à la Russie. En parallèle, la Grande-Bretagne a également annoncé des sanctions contre l'Iran, gelant les avoirs de l'Ericsson et de la compagnie aérienne nationale Iran Air sous le même prétexte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a condamné la mesure, la qualifiant d'illégale en vertu du droit international et de violation de la liberté de navigation et du commerce maritime. Mardi soir, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires britannique, lui notifiant que l'Iran répondrait à ses comportements irrationnels. Le diplomate britannique a été informé que la coopération légitime et légale de l'Iran avec d'autres pays dans les domaines de la défense et de la sécurité n'est pas contre une tierce partie et que l'ingérence illégale de certains pays européens dans le Royaume-Uni dans la coopération de l'Iran en matière de défense avec d'autres pays n'est en aucun cas acceptable. Dans son message de mardi, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que l'approche contradictoire du gouvernement britannique révèle son double standard à l'égard du commerce international des armes et de la question des droits de l'homme. Les avions de combat israéliens ont bombardé mercredi matin la maison d'une famille dans la ville de Jabalia, située dans le nord de la bande de Gaza. Selon un bilan provisoire, 8 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés jusqu'à présent dans ce raid aérien de l'aviation israélienne. Les efforts se poursuivent pour retirer les corps et trouver des survivants. À Gaza, les frappes terrestres aériennes ne sont qu'une partie des souffrances qu'endurent les Palestiniens sans défense. Le calvaire que vivent les déplacés de la bande de Gaza prend une ampleur considérable à l'approche de l'hiver. Les pluies abondantes, accompagnées de vents froids, ont considérablement mis à mal les Gazaouis. À l'évidence, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. Leur manque de vêtements d'hiver et de couverture pour les protéger du froid étant le plus criant. Le régime sioniste a déclenché une guerre dévastatrice contre la bande au Gaza depuis le 7 octobre 2023. Au cours de cette période, la plupart des maisons et des infrastructures de la région ont été sérieusement touchées, voire totalement détruites sous les frappes israéliennes. Le siège et la grave crise humanitaire, ainsi que la famine sans précédent, continuent de menacer la vie des Palestiniens. Plus de 43 970 personnes ont été tuées et pas moins de 104 000 autres blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les forces armées yéménites affirment avoir lancé une attaque de missiles sur un navire naviguant en mer Rouge en représailles aux guerres brutales du régime israélien dans la bande de Gaza et au Liban. Le général de brigade Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a fait ses remarques dans un communiqué mardi 19 novembre, affirmant que les forces yéménites ont utilisé des missiles balistiques et navals dans l'attaque contre le navire Anadolu S en mer Rouge, ajoutant que le coup était précis et direct. Le général Sari a ajouté que l'opération avait été menée après que le navire a refusé de répondre aux avertissements émis par les forces navales yéménites. Il a également noté que le navire avait été pris pour cible parce que la compagnie maritime qui le possède avait violé l'interdiction d'entrer dans les ports de la Palestine occupée. Le général Sari a en outre réitéré que les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations anti-israéliennes jusqu'à ce que ce régime cesse son offensive contre Gaza, lève le siège de l'enclave assiégée et mette fin à l'agression contre le Liban. Les forces yéménites ciblaient les navires israéliens ainsi que les navires naviguant vers ou depuis les territoires occupés afin d'accroître la pression économique sur le régime sioniste. Le chef de la diplomatie russe a promis le mardi 19 novembre une réponse appropriée aux tirs ukrainiens de missiles américains attaque MS contre la Russie, dénonçant l'implication des États-Unis dans ces frappes et voyant une nouvelle phase dans le conflit. Selon la Russie, les forces ukrainiennes ont attaqué dans la nuit son territoire avec ses missiles de longue portée, quelques jours après le feu vert de Washington à Kiev pour frapper le sol russe avec ses armements, ce que Moscou avait présenté comme une ligne rouge. Si des missiles de longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, cela signifie qu'ils sont opérés par des experts militaires américains. Nous considérons cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence, a déclaré Sergueï Lavrov devant la presse à Rio de Janeiro après le G20, intimant aux Occidentaux de lire la totalité de la nouvelle doctrine russe sur le recours à l'arme nucléaire. Lavrov a affirmé que les attaques MS ne pouvaient pas être tirées par les Ukrainiens sans l'aide d'experts et d'instructeurs américains, qui fournissent notamment des données satellitaires, la programmation et le ciblage. Il a estimé que l'utilisation d'attaques MS pour frapper le sol russe était un signal selon lequel l'Ukraine et les Occidentaux veulent l'escalade. La chaîne CNN, citant les médias russes, a rapporté que l'Ukraine avait tiré des missiles américains attaques MS sur la région russe de Bryansk après avoir reçu le feu vert de l'administration de Joe Biden. Le 17 novembre, citant des responsables américains, le New York Times a rapporté que Joe Biden avait autorisé Kiev à effectuer des frappes de missiles semi-balistiques à TKMS dans la profondeur du territoire russe. Le ministère russe de la Défense a déclaré ce 19 novembre avoir détruit en vol plusieurs missiles ATAC-MS de fabrication américaine tirés par les forces armées ukrainiennes lors d'une frappe nocturne contre une installation dans la région de Bryansk. Selon ce dernier, 5 missiles ont été abattus et un endommagé par les systèmes de défense antiaérien Iskander et Pantsir. Des fragments de missiles abattus ont touché le territoire d'une installation militaire dans la région de Bryansk, provoquant un incendie qui a été rapidement éteint, ajoute le rapport. Toujours selon cette source, il n'y a pas eu de victimes ni de destruction. La Russie a prévenu à plusieurs reprises qu'une telle autorisation serait considérée comme une implication directe des pays de l'OTAN dans le conflit en Ukraine, notamment en raison des moyens occidentaux que ces missiles nécessitent pour être opérés. Plusieurs armes légères et lourdes ainsi que plus de 1000 munitions ont été déterrées au cours d'une opération lancée la semaine dernière par l'unité du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement DDRR à Bangui, capitale de la République centrafricaine, annoncé lundi Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain. Selon Balalou, l'unité a pu extraire 30 vies AK, 47 vies lance-roquettes et 1780 munitions de gros calibre enterrées en 2020 par des hommes armés. Les armes et munitions déterrées appartiennent à des anti-Balaka, une milice locale, membre de la coalition des Patriotes pour le changement, qui ont tenté de prendre le pouvoir par les armes à la fin de l'année 2020. A-t-il précisé, ajoutant que cette opération s'est concrétisée grâce à la collaboration des habitants des quartiers qui se trouvent alentour de l'aéroport Bangui Mpoko. Balalou a indiqué que l'opération se poursuivrait à Bangui et dans certaines villes de province en République centrafricaine. Voilà, si s'achève le journal, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël commet un génocide à Gaza. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese, a récemment réaffirmé que les enquêtes menées sur le terrain corroborent l'idée qu'Israël est responsable d'un génocide dans la bande au Gaza sous blocus. Lors d'une intervention devant le Parlement espagnol, elle a partagé son engagement de l'année passée durant laquelle elle a collaboré avec de nombreux experts de l'ONU pour assembler des preuves et des témoignages sur les atrocités commises en Palestine. Madame Albanese a souligné l'ampleur des destructions et des souffrances infligées à la population de Gaza, qualifiant ces actes de génocide manifestes. Dans son discours, Albanese a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de doute quant à la nature des actions israéliennes, les qualifiant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle a mis en lumière les conséquences dévastatrices des opérations militaires israéliennes qui, selon elle, visent non seulement à détruire des infrastructures, mais aussi à anéantir l'existence même des Palestiniens. La rapporteuse a également évoqué la décision de la Cour internationale de justice rendue en juillet qui renforce l'argument selon lequel Israël est engagé dans un génocide dans les territoires occupés. Le 19 juillet, la Cour suprême des Nations unies a statué que les territoires palestiniens occupés doivent être considérés comme une unité territoriale unique nécessitant une protection et un respect accru. Albanese a affirmé que le génocide exercé par Israël à l'encontre des Palestiniens a causé des préjudices irréversibles dans la vie quotidienne des habitants de Gaza. Dans un autre passage de son discours, la responsable onusienne a insisté sur le fait que l'opération Tempête d'Al-Aqsa, lancée le 7 octobre 2023, ne saurait en aucun cas légitimer les atrocités commises par Israël. Albanese a également souligné que la poursuite des ventes d'armes à un régime qui commet de telles atrocités constitue une infraction grave à la Charte des Nations Unies. La semaine dernière, un comité spécial de l'ONU a déclaré que les méthodes de guerre d'Israël à Gaza étaient compatibles avec un génocide, y compris l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Ce comité a mis en exergue les pertes humaines massives et les conditions de vie dégradantes imposées de manière délibérée aux Palestiniens dans cette région assiégée. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous allons évoquer les dernières discussions entre les autorités iraniennes et le directeur général de l'AIEA qui a été à Téhéran et qui a eu des discussions aussi bien avec le chef de l'Agence iranienne de l'énergie atomique, mais également avec le ministre iranien des Affaires étrangères, notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Al-Orchi, a mis en garde le régime israélien contre toute provocation contre les sites nucléaires iraniens, mais également l'Occident, contre tout acte hostile contre les activités pacifiques nucléaires iraniennes qui, selon lui, seraient bien sûr, auraient en fait une riposte iranienne. Une réponse et une riposte iranienne. Nous allons évoquer cette question avec nos deux invités, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage. On revient tout de suite après.
Le ministre iranien des Affaires étrangères réitérant que l'Iran reste ouvert pour le dialogue a mis en garde les pays occidentaux contre l'adoption de toute résolution anti-Iran lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence nucléaire de l'ONU. Abbas Al-Arqi affirme que la réponse de Téhéran inclurait de nouvelles mesures qui ne leur plairaient certainement pas. Al-Arqi avertit l'AIEA de faire preuve du professionnalisme, de la neutralité et de ne pas se laisser entraîner dans des domaines politiques politisés, ajoutant que l'Iran poursuivrait sa coopération avec l'agence tant que l'organisme de l'ONU remplisse à son tour ses obligations professionnelles. Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que Téhéran avait cessé de remplir ses obligations en vertu de l'accord nucléaire, même de 2015, et cela en réponse au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord et au non-respect de l'accord par les pays européens qui ont échoué à récompenser le vide provoqué par la violation du pacte par Washington. Cependant, il a souligné que l'Iran est toujours membre du traité de non-prolifération d'armes nucléaires et qu'il remplirait ses obligations en vertu du TNP. Al-Arqi a exprimé la volonté de l'Iran de négocier sur la question nucléaire, mais a souligné que la fenêtre de la diplomatie restait ouverte si l'autre partie faisait preuve d'une volonté sincère et réelle.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Maître André Chamil, juriste international, et Bernard Cornu, géopolitologue. Merci, monsieur, d'être avec nous pour cette émission. Monsieur Cornu, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre point de vue en ce qui concerne cette mise en garde de la part des autorités iraniennes, mais notamment des provocations, des agissements et des pressions exercées aussi bien par l'Occident que l'AIEA durant toutes ces années contre les activités nucléaires iraniennes. De quoi ont-ils peur ?
Récemment, l'État israélien et son armée ont menacé d'attaquer les installations nucléaires, sans préciser civiles ou militaires, qui sont en grande partie souterraines, qui sont des activités de recherche et de mise au point, dans le civil essentiellement. Et cela a fait peur à la communauté internationale. C'était sans doute le but des Israéliens et cela a provoqué une sorte de conseil de mise en garde des États-Unis disant qu'il ne fallait bombarder ni les installations pétrolières, dit les installations nucléaires. En précision, il n'y a pas eu vraiment de déclaration officielle. Le problème est ce que dans cette stratégie, l'État israélien essaye toujours de faire des provocations pour déclencher des attaques de l'Iran, afin que s'il y a une guerre qui déclare, qui se soit, le responsable soit clairement ailleurs qu'en Israël. D'où ces provocations, d'où ces assassinats sans revendication parfois, d'où ces coups tordus en Iran même pour essayer de provoquer l'Iran. L'Iran est un grand pays et a une diplomatie forte et veille à toujours montrer que ce qu'il fait, c'est en réaction, en défense des attaques israéliennes, connues ou parfois suspectées. Voilà, donc on est au risque d'une guerre très importante s'il y avait effectivement une escalade au-delà de ce qui a été déjà fait, qui est déjà grave. Et les États-Unis, le monde entier, l'Europe surtout, craint cette escalade. Et le système des Nations Unies n'intervient pas encore assez, à part pour ces interventions de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui penche toujours plutôt du côté des Européens et des États-Unis, malgré leur retrait, plutôt que de le côté de la confiance envers l'Iran, qui est l'objectif de la résolution 2231, qui était faite juste après l'accord entre les 4 plus 1, enfin les pays européens et l'Allemagne, les pays du Conseil de sécurité et l'Allemagne, pour avoir un accord sur la supervision et le contrôle du programme nucléaire civil iranien.
Mmh. Merci pour votre explication. Restez en ligne. Maître Chamil, vous, comment interprétez-vous déjà cette mise en garde des autorités iraniennes, mais également les pressions exercées par l'AIEA et l'Occident contre les activités nucléaires iraniennes?
En réalité, ces derniers temps, il y a eu des annonces à travers les médias occidentaux, que l'Iran aurait acquis l'arme nucléaire. Et évidemment, cela a été situé, entre guillemets, dans le temps, au moment où il y a eu un tremblement de terre en Iran, en disant bah, ce tremblement de terre n'en était pas un, c'était un essai nucléaire souterrain. Et ça prouve que, en tout cas, ça prouverait que l'Iran a déjà franchi le seuil qui était prévu dans le cadre des engagements internationaux. Et on a basculé du nucléaire civil vers le nucléaire militaire. En réalité, ce n'est qu'un prétexte. Parce que ce prétexte-là était utilisé déjà depuis de longues années en disant on ne veut pas que l'Iran ait une énergie nucléaire et une activité nucléaire parce qu'à un moment donné, elle atteindrait le seuil. Maintenant, on dit non seulement que l'Iran a atteint le seuil, mais en même temps, l'Iran a réalisé nos craintes puisque maintenant, il a développé une arme nucléaire. J'ai envie de dire, il importe peu que l'Iran ait ou non développé une arme nucléaire. La seule menace actuellement dans toute la région, c'est l'entité sioniste. L'entité sioniste, jusqu'à preuve du contraire, dispose, selon les sources occidentales, de 250 têtes nucléaires. Or, on est en train de chercher des détails dans le programme nucléaire iranien et dans l'exécution du programme nucléaire iranien, alors que ceux qui étaient engagés dans le cadre de cet accord global se sont retirés. Les États-Unis l'ont renié à l'époque de Trump déjà. Ce n'est pas pour autant que Biden l'a repris et l'a signé à nouveau. Les Occidentaux n'ont pas poursuivi l'application de cet accord en, bien entendu, en ouvrant leur économie et leurs relations et leur coopération avec l'Iran et avec les Iraniens. Par conséquent, nous sommes aujourd'hui au même endroit, si j'ose dire, qu'à l'époque de Trump quand il a déchiré l'accord. À partir de ce moment-là, il ne faut pas venir demander des mesures de contrôle, même si l'Iran est adhérent à l'accord au traité de non-prolifération. Il ne faut pas demander à l'Iran ce que personne ne demande à d'autres, on va dire, pays dotés de l'activité nucléaire et même de l'arme nucléaire. Tout ça, c'est un baratin, si vous me passez le terme, pour justement tenter de préparer d'autres opérations, d'abord médiatiques et puis ensuite peut-être militaires. Nous nous rappelons tous des armes chimiques chez Saddam Hussein et c'était le début d'une guerre contre l'Irak. Nous nous souvenons tous de ce qui a été dit sur le 11 septembre par rapport à l'Afghanistan, c'était le début de la guerre en Afghanistan. Nous nous rappelons toujours des armes chimiques en Syrie pour commencer une opération militaire en Syrie, et jusqu'à maintenant les Américains sont toujours là, non pas pour préserver la démocratie comme ils le prétendaient, mais tout simplement pour voler les ressources syriennes. S'ils croient pouvoir la même chose avec l'Iran, ils se trompent totalement. Parce que l'Iran est un pays totalement différent par rapport, en comparaison par rapport aux autres pays que j'ai cités. D'abord, vous avez la puissance militaire qui est totalement différente, vous avez une cohésion qui est totalement différente, mais également, et c'est ça qui a été souligné, me semble-t-il, par le ministre des Affaires étrangères iranien il y a quelques mois, en rappelant que si Israël est peut-être derrière eux, d'autres puissances devaient tenter une opération militaire contre le territoire iranien, eh ben, il a rappelé que le territoire israélien représente quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés, alors que le territoire iranien est 30 fois le territoire français. Mais en même temps, même s'il devait y avoir une aventure nucléaire, si j'ose dire, eh bien, bien entendu, la riposte de l'Iran sera foudroyante dans la mesure où un petit territoire tel que le territoire occupé par l'entité sioniste ne durerait pas longtemps devant l'assaut des armes iraniens, et les Iraniens ont donné une démonstration il y a quelques semaines en attaquant Tel Aviv par, d'après ce qu'on dit, 200 ou 250 missiles qui ne sont pas nucléaires, et ont démontré la puissance de feu qu'ils sont capables de déployer, étant précisé, à mon sens, les têtes utilisées sur ces missiles hypersoniques n'étaient pas les têtes que l'on peut imaginer. On a essayé de donner juste un symbole pour ne pas dire un échantillon, mais et bien entendu, l'Iran est capable de déployer d'autres moyens et d'autres puissances de feu, aussi bien balistiques que peut-être si on l'y obligeait à déployer des têtes nucléaires. Il ne faut pas tenter le diable, il faut maintenant que les États-Unis et l'Occident comprennent qu'on ne peut pas continuer de jouer avec les nerfs des Iraniens, parce que tôt ou tard, il y aura une réaction, cette réaction pourra faire mal et pourra même aboutir tout simplement, je le dis clairement, à la disparition de l'entité sioniste avec toutes ces armes nucléaires qu'elle a, qu'elle considère comme étant sa protection vis-à-vis de tout ennemi vrai ou supposé pour cette entité.
Merci, maître. Monsieur Cornu, est-ce que, à votre avis, comme le dit maître Chami, les États-Unis et l'Occident finiront par comprendre qu'il ne faut pas jouer avec les nerfs de l'Iran, parce qu'en fin de compte, bien sûr, il y aura une riposte très ferme vis-à-vis de toutes ces provocations?
D'abord, je voulais préciser, quand maître Chami évoquait une attaque sur Tel Aviv, il a dit Tel Aviv pour l'ensemble du territoire israélien, parce qu'il est très clair que lors de cette attaque assez massive, l'Iran a visé essentiellement des bases militaires, donc et non pas la ville de Tel Aviv, puisque la République islamique, comme le Hezbollah, insiste toujours qu'il essaye de viser des cibles militaires, des centres de sécurité. Ceci est important pour l'éthique de la guerre et l'éthique de des positions respectives des belligérants. Je voudrais signaler aussi que la résolution qui a suivi l'accord sur le nucléaire disait bien qu'un des objectifs, c'était de renforcer la confiance envers l'Iran. Mais l'Iran a bien des raisons aussi de se méfier des organismes internationaux, même s'ils sont sous la tutelle de l'ONU, tels que l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le directeur général, M. Grossi, a visité l'Iran récemment pour prendre des contacts à haut niveau. Mais je voudrais rappeler encore une fois que l'Office international des armes chimiques et de prévention de l'usage des armes chimiques, aussi sous la tutelle de l'ONU, a été affecté par une histoire dont on a peu parlé, mais d'une infiltration d'agents occidentaux pour manipuler les rapports faits par les experts. Ceci a été dénoncé très clairement l'année dernière dans un rapport très important de près de 142 pages, très documenté, qui montrait comment les rapports des experts techniques de grande expérience, plus de 20 ans d'expérience, ont été manipulés en changeant quelques mots, quelques interprétations, en rajoutant des informations fausses pour faire croire que une année près de Douma, l'armée syrienne aurait utilisé des armes chimiques, alors que les experts avaient mis complètement en doute cela, même prouvé le contraire. Et ils avaient d'ailleurs montré comment il y avait pu avoir des manipulations sur certains documents produits par les mouvements de rébellion soutenus encore à l'époque dans le cadre d'une grande collusion internationale. Donc cette méfiance envers les organismes internationaux qui sont parfois infiltrés, je n'ai pas d'informations sur l'Agence de l'énergie atomique actuellement, mais sur le passé, on sait très bien par un très gros livre de M. Gareth Porter, qui a montré comment les Israéliens et des services occidentaux avaient manipulé des documents, créé de faux documents pour faire croire que l'Iran entretenait encore un programme nucléaire, militaire, à vocation militaire. Donc tout ceci, il faut s'en méfier et je serais très désolé que la France, que l'Angleterre continue à tenter de telles manifestations occultes à l'intérieur, des manipulations occultes à l'intérieur des systèmes des Nations Unies.
Merci. Et maître Chami, à votre avis, durant toutes ces années, avec leur pression, les résolutions exercées et adoptées contre l'Iran, contre le programme nucléaire iranien, les différents communiqués contre le programme nucléaire iranien, est-ce que tout ceci a vraiment réussi à freiner le programme et l'activité nucléaire iranien?
La position de l'Iran est claire. C'est l'exercice de sa souveraineté, c'est-à-dire l'Iran a fixé des objectifs, a fixé un programme, et bien entendu, ce programme a voulu être en conformité avec les accords internationaux dans lesquels l'Iran s'était engagé. La question qui se pose est simple. Est-ce que les Occidentaux sont pour l'application de ces traités internationaux ou ils veulent aller au-delà en imposant à l'Iran ce qu'ils n'ont jamais imposé à d'autres puissances? Je prends l'exemple du Pakistan, de l'Inde, etc. Est-ce que à ce moment-là, la communauté internationale, comme on essaye de le dire, veut maintenant changer les règles du jeu? Ça, c'est la première observation qui me paraît frapper du bon sens. Mais il y a également, au-delà de la question de la souveraineté, il y a un engagement moral de la part de l'Iran dans le sens de dire « moi, l'arme nucléaire ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est une question morale ». Parce qu'on considère que toute utilisation d'une arme nucléaire est une, aboutit indiscutablement à des massacres de masse, et cela est contraire à la conception de la politique étrangère et même des lois de la guerre du côté de l'Iran. Et M. Cornu a eu raison de rappeler que vous avez l'axe de la résistance qui respecte les règles des lois de la guerre, alors qu'en face, personne ne les respecte. Les États-Unis, l'Occident, l'entité sioniste sont responsables. Là, maintenant, il y a les statistiques, notamment pour les États-Unis, on parle d'une addition de toutes les guerres dans lesquelles ils sont intervenus. On est à 30 millions quand même de personnes victimes des différentes guerres engagées par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. 30 millions, et voire plus, parce qu'en réalité, c'est les chiffres qui ont été additionnés des différents terrains de guerre qui ont été déclenchés par les États-Unis. On ne peut pas en dire autant de l'Iran. L'Iran a toujours été en position défensive et ne faisait aucune opération militaire, sauf quand il est attaqué. Je dirais, cette question de morale a un sens dans ce contexte-là. Mais derrière tout ça, il y a aussi le droit international que l'Iran entend toujours respecter. D'ailleurs, à chaque fois que l'Iran s'est trouvé agressé, d'abord, il s'est référé aux organisations internationales, notamment à l'ONU et notamment au Conseil de sécurité, pour voir quelle serait la réaction. Et à chaque fois, la réponse était simple, pas de réaction. Cela a obligé systématiquement l'Iran à prendre des mesures individuelles, certes, mais ce sont des mesures qui sont prévues par l'article 51 de la charte de l'ONU. Par conséquent, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui respecte le droit international et vous avez toute une communauté internationale, et notamment les puissants de la communauté internationale, et plus précisément les Occidentaux, à la tête desquels les États-Unis, et accompagnés de leur, complice, pour ne pas dire leur exécutant, l'entité sioniste, qui ne respecte absolument pas le droit international. Ils se croient tout simplement au-dessus de ces règles-là. Dans la mesure où nous avons compris ces règles du jeu, bien entendu, l'Iran a, à un moment donné, le droit de se délier de ses engagements qui sont les siens, parce qu'on ne peut pas continuer, encore une fois, de chercher à avoir des problèmes avec l'Iran et d'essayer de porter atteinte à sa souveraineté, à ses décisions prises par ses instances locales et par ses autorités légitimes, pour imposer des règles qui ne sont pas acceptables ni sur le plan international, ni sur le plan de la souveraineté de ce pays-là. C'est quelque chose que les Occidentaux doivent se fourrer dans le crâne une bonne fois pour toutes, sinon, bien entendu, la situation risquerait de dégénérer, avec non seulement des sanctions économiques réciproques, mais avec, à ce moment-là, des ripostes qui pourraient être graduées et qui pourraient malheureusement aboutir, ce que l'Iran ne souhaite pas, en tout cas pas à ma connaissance, aboutir à une guerre généralisée et peut-être même à une guerre beaucoup plus importante, c'est-à-dire qui s'appelle la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Si cela les Occidentaux cherchent, évidemment, ils sont en train d'emprunter le bon chemin.
Merci, merci. À Bernard Cornu, nous avons une minute devant nous. La conclusion est à vous.
Je crois que personne, ni les dirigeants ni les civils, ne cherchent une troisième guerre mondiale. Mais c'est vrai qu'il y a des risques, et ces risques font partie des images de propagande pour couvrir l'objectif et la réalité, c'est-à-dire la progression des colons israéliens, de l'armée israélienne dans tout le territoire palestinien, tel que le voulaient les sionistes dès l'origine, dès 1910 ou 1920. Donc c'est cela sur lequel on doit protester. Et je pense que lors du G20 qui va se tenir au Brésil ces jours-ci, je pense que les grandes puissances du Sud, telles que le Brésil, vont, je pense, un peu, comme on dit, remonter les bretelles des Occidentaux pour leur dire qu'il faut en finir avec le deux poids et deux mesures. Le président Biden a maintenant plus qu'à peine deux mois pour réagir et proposer des avancées dans la solution juste des différents conflits en Ukraine et dans le territoire de la Palestine historique. Et c'est aussi lié au problème du pétrole, au problème du climat. car on ne peut pas espérer dans le monde assurer la transition énergétique sans politique globale dans le monde sur les énergies fossiles et donc sur leur taxation pour réduire la demande et permettre d'avoir des ressources financières pour le monde, réparer et assurer les compensations dues aux millions de victimes de ces guerres du pétrole.
Merci infiniment. Alors Bernard Cornu, géopolitologue, André Chamy, juriste international, est avec nous pour cette émission. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Messieurs, chers amis auditeurs, nous voici avec une autre émission portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Remet détaille les atrocités et les exécutions perpétrées par le régime israélien dans le nord de Gaza. Un important organisme européen de défense des droits de l'homme relate, dans des détails poignants, les atrocités perpétrées depuis 43 jours par le régime israélien contre les Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. L'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme, basé à Genève, a fourni ces informations dans un rapport publié lundi, qui montre comment l'armée israélienne soumet les Gazaouis à des meurtres directs, des exécutions extrajudiciaires, une famine de masse, un nettoyage ethnique, sans aucune justification, dans le cadre de sa guerre génocidaire contre la bande côtière, qui dure depuis 13 mois. Les forces du régime sioniste, selon le rapport, ont commis ces crimes en bombardant des maisons avec des résidents à l'intérieur, en commettant des massacres contre des civils déplacés dans des abris et en ciblant des rassemblements et des véhicules. Les forces du régime ont également entrepris de provoquer les plus grands cas de déplacement forcé de l'histoire moderne contre les civils ciblés. Au cours de la période en question, a considérablement intensifié son agression meurtrière contre le nord de Gaza. Elle a également mené sa troisième incursion et l'offensive militaire contre les zones ciblées et commis des atrocités odieuses, dénonce encore l'organisme. La routine combinée de meurtres et de déplacements a été menée dans le but de terroriser les civils, entre autres choses, affirme-t-il. L'organisme a cité Tamam Abdel Maradma, l'un des civils qui a décrit certaines des atrocités commises par les forces israéliennes dans la ville de Beit Laïa. Les conditions se sont aggravées dans la rue Al-Shima à Beit Laïa en raison de l'artillerie lourde et des bombardements aériens. En conséquence, nous avons quitté notre maison située près de la clinique d'Al-Shima pour nous installer dans le quartier d'Abbas Kilani au milieu de la rue Al-Shima, a-t-il dit. Mercredi, les forces d'occupation israéliennes ont commencé à avancer dans la zone où nous nous étions réfugiés. Nous sommes restés coincés dans la maison et moins de 2 heures plus tard, les forces ont fait exploser la porte et ont pris d'assaut le bâtiment. Lorsque nous sommes descendus au rez-de-chaussée, sur ordre des forces, j'ai trouvé mon beau-frère Khaled étendu sans vie avec 2 balles dans l'abdomen, le sang coulant de lui. Son fils aîné, Ibrahim, 21 ans, avait reçu une balle dans la tête. Je suis resté sous le choc pendant quelques instants, avant qu'un soldat ne me menace de bouger ou d'être abattu. Nous étions environ 26 personnes au total. Il a raconté comment sa sœur a été empêchée par les troupes d'invasion de dire au revoir à son mari et à son fils. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Ils les ont exécutés devant moi, alors que Maradma et d'autres essayaient de l'éloigner. Ils les ont tués sans qu'ils aient bougé d'un pouce, a-t-il ajouté décrivant la manière dont les victimes ont été exécutées. Cela s'est produit devant les yeux des petits-enfants. 4 garçons et 4 filles qui ont vu leur père et leur frère exécutés sous leurs yeux, a déclaré encore la sœur de Maradma. Selon Ramat, l'armée israélienne empêche depuis 25 jours les équipes de défense civile et médicale d'accéder aux victimes, y compris celles qui ont été ensevelies sous les décombres dans le nord de Gaza. Beit Laïa est devenue une cible spécifique de la campagne depuis 10 jours. Les forces israéliennes ayant poussé quelques 5000 civils dans divers points de rassemblement, ciblant ceux qui tentaient de rentrer chez eux pour récupérer de la nourriture dont ils avaient cruellement besoin et qui n'était pas disponible sur les sites de rassemblement. Des dizaines de personnes qui ont tenté de le faire, ramener de la nourriture, ne sont pas revenues car elles ont été exécutées dans les rues, a déclaré un civil. Un autre a décrit l'état dans lequel il avait trouvé l'une des victimes, qui avait essayé de revenir avec de la nourriture. À côté de l'une des victimes, il y avait un sac de farine. Il semble qu'il l'ait récupéré avec succès chez lui, mais l'armée israélienne l'a battu alors qu'il retournait au refuge. Toute la nourriture que nous parvenons à récupérer dans les maisons voisines est distribuée en priorité aux enfants, puis aux personnes âgées en plus petites portions. Les jeunes adultes reçoivent au milieu une seule miche de pain par jour, a-t-il déclaré à propos des conditions nutritionnelles désastreuses dans les lieux de rassemblement. L'organisme de défense des droits de l'homme a dénoncé la réticence de la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre le régime israélien, qui a coûté la vie à plus de 43 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, au cours de la guerre génocidaire contre Gaza depuis octobre 2023. L'inaction de la communauté internationale la rend complice de ces crimes et donne à Israël le feu vert pour intensifier son génocide. Cela reflète également un mépris choquant pour la vie et la dignité des Palestiniens, a-t-il encore déploré. Le système international, y compris la Cour pénale internationale, l'Union européenne et divers organismes des Nations unies, ont collectivement échoué à atteindre les objectifs et principes fondamentaux sur lesquels ils ont été fondés. Tout au long de la guerre, les institutions ont démontré un échec honteux à protéger les civils, à mettre un terme au génocide qu'Israël perpètre contre les Palestiniens à Gaza. Un devoir qui est au cœur de leur mission et de leur existence, a averti Remet. L'organisation a fini par appeler à diverses mesures punitives contre le régime israélien, notamment un embargo complet sur les armes et à le tenir responsable de tous ses crimes. Israël commet un génocide à Gaza, confirme l'ONU. La rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese, a récemment réaffirmé que les enquêtes menées sur le terrain corroborent l'idée qu'Israël est responsable d'un génocide dans la bande de Gaza sous blocus. Lors d'une intervention devant le Parlement espagnol, elle a partagé son engagement de l'année passée, durant laquelle elle a collaboré avec de nombreux experts de l'ONU pour assembler des preuves et des témoignages sur les atrocités commises en Palestine. Madame Albanese a souligné l'ampleur des destructions et des souffrances infligées à la population de Gaza, qualifiant ces actes de génocide manifestes. Dans son discours, Albanese a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de doute quant à la nature des actions israéliennes, les qualifiant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle a mis en lumière les conséquences dévastatrices des opérations militaires israéliennes, qui, selon elle, visent non seulement à détruire des infrastructures, mais aussi à anéantir l'existence même des Palestiniens. La rapporteuse a également évoqué la décision de la Cour internationale de justice rendue en juillet, qui renforce l'argument selon lequel Israël est engagé dans un génocide dans les territoires occupés. Le 19 juillet, la Cour suprême des Nations unies a statué que les territoires palestiniens occupés doivent être considérés comme une unité territoriale unique nécessitant une protection et un respect accru. Albanese a affirmé que le génocide exercé par Israël à l'encontre des Palestiniens a causé des préjudices irréversibles dans la vie quotidienne des habitants de Gaza. Dans un autre passage de son discours, la responsable onusienne a insisté sur le fait que l'opération Tempête d'Al-Aqsa, lancée le 7 octobre 2023, ne saurait en aucun cas légitimer les atrocités commises par Israël. Albanese a également souligné que la poursuite des ventes d'armes à un régime qui commet de telles atrocités constitue une infraction grave à la Charte des Nations Unies. La semaine dernière, un comité spécial de l'ONU a déclaré que les méthodes de guerre d'Israël à Gaza étaient compatibles avec un génocide, y compris l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Ce comité a mis en exergue les pertes humaines massives et les conditions de vie dégradantes imposées de manière délibérée aux Palestiniens dans cette région assiégée. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Thank you.